Léon Tolstoï, la sonate à Kreutzer, en exergue. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Saint Matthieu 5, 28. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme avec la femme, il ne convient pas de se marier. » Mais il leur dit, « Tous ne sont pas capables de cela, mais ceux-là seulement à qui il a été donné. » Saint Matthieu 19, 10, 11. C'était au commencement du printemps. Nous avons passé 2 jours et une nuit en chemin de fer. Aux arrêts du train, des voyageurs montaient ou descendaient. 3 personnes, cependant, étaient restées comme moi dans notre wagon depuis le départ du train. Une femme entre 2 âges, assez laide, la cigarette aux lèvres, les traits tirés, coiffée d'une toque, revêtue d'un manteau d'allure masculine. À côté, son compagnon, fort loquace, d'environ 40 ans, entouré d'objets de voyage tout neufs, puis, se tenant à l'écart, à l'aspect nerveux, de petite taille, un homme, jeune encore, mais aux cheveux précocement grisonnants, aux yeux brillants et sans cesse attirés par un nouvel objet. Il portait un pardessus usagé à col d'astrakhan, de bonne coupe, et un bonnet de la même fourrure. Sous son pardessus, on apercevait un juste au corps de moujik et une chemise à broderie russe. Autre singularité de ce monsieur, il faisait entendre par moments des sons étranges, ressemblant à un toussotement ou à un rire bref. Durant le trajet, ce monsieur n'avait lié conversation avec personne, paraissant éviter avec soin de se créer des relations. Tantôt il lisait et fumait, tantôt il se faisait une tasse de thé ou mangeait les tartines qu'il tirait d'un vieux sac. Si on lui parlait, ses réponses étaient brèves et sèches et son regard allait se perdre sur le paysage qui défilait. Je m'aperçus néanmoins que la solitude lui pesait, et quand nos regards se croisaient, fréquemment puisque nous nous trouvions placés presque vis-à-vis l'un de l'autre, il se détournait comme pour se soustraire à toute conversation. À la fin du 2e jour, lorsque le train s'arrêta à une grande gare, le monsieur nerveux descendit pour chercher de l'eau bouillante pour son thé, tandis que le monsieur aux objets neufs, j'appris plus tard que c'était un avocat, allait prendre du thé au buffet avec la dame qui l'accompagnait. Durant leur absence, de nouveaux voyageurs montèrent dans le wagon, et parmi eux un vieillard de haute stature, le visage fraîchement rasé, le front sillonné de rides, un marchand évidemment, drapé dans une vaste pelisse en putois américain et coiffé d'une casquette à grande visière. Il s'assit en face de la banquette que venaient de quitter l'avocat et sa compagne et lia conversation avec un jeune homme qui venait également de monter et qui paraissait être un employé de commerce. Je me trouvais tout près d'eux et, dans l'immobilité du train, je pus, pendant le silence des autres voyageurs, percevoir quelques bribes de leur entretien. Ils parlèrent d'abord du prix des marchandises, de commerce, puis de la foire de Nijni Novgorod. Le commis conta les orgies faites à la foire par un riche marchand que tous deux connaissaient. Mais le vieillard l'interrompit pour entreprendre le récit de celles auxquelles il avait autrefois, à Kunavino, pris lui-même une part active. Ce n'était pas sans une certaine fierté qu'il évoquait ses souvenirs, et il raconta avec orgueil qu'un jour, à Kunavino, étant saoul, il s'était livré à une débauche telle qu'il ne pouvait la compter qu'à l'oreille. Le commis, à cette histoire, fut secoué d'un fou rire, tandis que le vieillard, qui riait aussi, montrait 2 dents jaunes. Cette causerie était sans intérêt pour moi, et j'allais descendre à mon tour pour me promener un peu en attendant le départ. À la portière, je rencontrai l'avocat et la dame qui parlaient tous deux avec animation. « Oh, pressez-vous, me dit l'avocat, on va sonner le second coup. » En effet, à peine étais-je arrivé à la queue du train que la cloche retentit. Quand je remontais, l'avocat continuait à parler avec la même animation à sa compagne. En face d'eux, le marchand gardait maintenant le silence et remuait les lèvres d'un air désapprobateur. Elle déclara donc nettement à son mari qu'elle ne pouvait ni ne voulait continuer à vivre avec lui parce que, disait en souriant l'avocat pendant que je passais devant eux, je ne pus entendre la suite. Le conducteur passait, de nouveaux voyageurs entraient, un facteur les suivait. Quand le silence fut rétabli, j'entendis de nouveau la voix de l'avocat et il me parut que la conversation avait passé d'un cas particulier à des considérations générales. L'avocat fit observer que la question du divorce intéressait aujourd'hui l'opinion publique de l'Europe entière et qu'en Russie, les cas de divorce devenaient de plus en plus fréquents. Il n'en était point de même dans le bon vieux temps, n'est-il pas vrai ? Dit-il au vieillard avec un sourire en s'apercevant qu'il était le seul à parler. Le train se mettait en branle. Le vieillard se découvrit d'abord, se signa trois fois, murmurant une prière. L'avocat détourna les yeux et attendit poliment. Quand le vieillard eut fini, il enfonça à fond la tête dans sa casquette, prit contenance et dit « Cela arrivait bien autrefois aussi, dit-il, mais plus rarement. Aujourd'hui, ces choses-là sont forcées. On est trop féru d'instruction. » Le train augmentant sans cesse de vitesse, le bruit de ferraille m'empêcha d'entendre. Mais intrigué, je me rapprochai. La conversation semblait également intéresser mon voisin, le monsieur nerveux, car, sans se déranger, il tendit l'oreille. « Mais en quoi est-ce la faute à l'instruction ?» demanda la dame en esquissant un sourire. « Faudrait-il mieux se marier comme jadis, quand les fiancés ne s'étaient même pas vus avant le mariage » ajouta-t-elle, répondant, comme le font très souvent les dames, non aux arguments invoqués, mais à ceux qu'elle escomptait. S'aimait-il ? Pouvait-il s'aimer ? Il ne le savait pas. Les femmes épousaient le premier venu et se créaient ainsi un tourment pour toute leur existence. « À votre avis, était-ce préférable ? » poursuivit-elle, s'adressant plus à l'avocat et à moi qu'au vieux marchand. « On est trop savants de nos jours, » répéta le vieillard, ne répondant pas à la question de la dame et en jetant sur elle un regard dédaigneux. Il serait intéressant que vous nous disiez quel rapport vous voyez entre l'instruction et la désunion du mariage, dit l'avocat en réprimant un sourire. Le marchand y répondit, mais la dame l'interrompit. Non, ces temps sont passés. Laissez donc, monsieur, développer sa pensée, je vous en prie, dit l'avocat. Parce que toutes les sottises viennent de l'instruction, dit le vieillard d'un ton résolu. On marie les personnes qui ne s'aiment pas et l'on s'étonne de les voir vivre en désaccord. Il n'y a que les animaux qui s'accouplent au gré du propriétaire. Les hommes, au contraire, sont poussés par leurs sympathies, leurs inclinations, acheva la dame en lançant un regard sur l'avocat, sur moi et même sur le commis qui, debout, appuyé sur le dossier de la banquette, suivait en souriant la conversation. « Erreur, madame, dit le vieillard, l'animal est un animal, tandis que l'homme vit d'après les lois. » Cependant, mais comment vivre avec un homme lorsque l'amour est absent ? Répliqua la dame, croyant émettre des idées très neuves. « Il n'était point question de tout cela autrefois, dit le vieillard d'un ton pénétré. C'est aujourd'hui seulement que c'est entré dans nos mœurs. À la plus légère bagatelle, la femme se hérisse et dit à son mari qu'elle va le quitter. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir les paysannes elles-mêmes jeter aux pieds de leur mari les chemises et les caleçons pour voler à celui qui a les cheveux plus bouclés. Alors, de quoi parler ? La femme doit d'abord éprouver de la crainte pour l'homme. Le commis regarda l'avocat, la dame et moi, réprimant un sourire et tout prêt à donner son approbation ou à ridiculiser les paroles du marchand selon notre attitude. « Mais quelle crainte ?» demanda la dame. Ben, « Celle-ci, la femme doit craindre son mari, voilà la crainte. « Oh, mon cher monsieur, ces temps sont passés, » dit la dame avec quelque humeur. « Point si passé que vous pourriez le croire, madame. Ève, la première femme, est née d'une côte de l'homme et cela restera vrai jusqu'à la fin des temps. » Le vieillard secoua la tête d'un tel air de triomphe et de gravité que le commis, lui décernant décidément la palme de la victoire, éclata d'un rire sonore. « Oh, c'est bien là votre façon de juger, vous, homme, » dit la dame, sans céder et en se tournant vers nous. « Vous vous donnez toute licence et vous voudriez cloîtrer la femme. Vous-même, n'est-ce pas? Vous pouvez tout vous permettre. » « Personne ne saurait le soutenir. Seulement, la mauvaise conduite de l'homme, au dehors, n'augmente pas sa famille. Tandis que la femme, l'épouse, c'est un vase bien fragile, » dit sévèrement le vieillard. Son ton sentencieux paraissait entraîner la conviction des auditeurs. Mais la dame, bien que fortement embarrassée, ne voulut point encore se rendre. Cependant, la femme est aussi une créature humaine, elle a des sentiments comme l'homme. Que pourra-t-elle faire si elle n'aime pas son mari ? Ne pas aimer son mari, fut le marchand d'une voix forte. Ben, on lui apprendra. Le commis fut particulièrement charmé de cette réponse inattendue et il fit entendre un murmure approbateur. Mais non, on ne pourra pas le lui apprendre, dit la dame. L'amour ne vient pas de force. « Et si la femme trompe son mari, que se passera-t-il » interrogea l'avocat. « Elle ne doit pas le tromper, dit le marchand, on y veille. Et s'il en est ainsi, cependant, car enfin, cela arrive. « Oh, dans un certain monde, c'est possible, mais pas chez nous, » dit le vieillard. On se tut. Le commis fit un mouvement, et ne voulant pas être en reste avec les autres, commença toujours en souriant. Mais un de mes bons amis a été mêlé à un scandale assez compliqué. Sa femme, licencieuse à l'excès, ne tarda pas à se lancer. Lui était un homme intelligent et sérieux. D'abord, ce fut avec le comptable. Le mari chercha à la ramener à la raison par la persuasion. Elle n'en continua pas moins. Elle vola de l'argent à son mari. Il se mit à la battre. Elle n'en devint que pire, et elle se donna à un mécréant, à un juif, sous votre respect. Que faire? Il la laissa partir, et depuis, il vit en célibataire, tandis qu'elle continue à traîner. « C'est un imbécile, » dit le vieillard. « S'il avait su la bonne idée dès le début, elle serait encore avec lui. Oh, il faut toujours tenir les rênes en main dès le départ, et ne pas les abandonner à sa femme, dans la maison plus qu'à son cheval sur une grande route. » À ce moment, le conducteur entra, demandant les billets des voyageurs pour la prochaine station. Le marchand remit le sien. « Oh oui, il faut savoir mater les femmes à temps, autrement tout est perdu. » Mais n'avez-vous pas raconté cependant tout à l'heure « comment les hommes mariés se divertissent avec les jolies filles de Cuvanino ?» ne puis-je me retenir de lui demander. « Bon, c'est tout différent, » répliqua froidement le vieillard, sans rien ajouter. Bientôt un sifflement retentit et le train s'arrêta. Le marchand se leva, retira de dessous la banquette son sac, s'enveloppa dans sa fourrure, souleva sa casquette, et descendit. Le vieillard était à peine sorti qu'une vive conversation s'engagea. « Un homme du Vieux Testament, » dit le commis. « Un domostroy incarné, » dit la dame. « Quelles idées barbares sur la femme et le mariage !»« Nous sommes loin encore des idées sur le mariage ayant cours dans le reste de l'Europe, » dit l'avocat. Mais ce que l'on ne peut faire comprendre à ces gens-là, ajouta la dame, c'est que le mariage n'a sa vraie consécration que dans l'amour, et que seule cette consécration de l'amour rend le mariage vraiment légitime. Le commis, souriant, était tout oreille pour retenir le plus possible des propos éclairés qu'il entendait et en faire son profit. À ce moment, on entendit une sorte de rire bref ou de sanglot. En nous retournant, nous aperçûmes mon voisin, le monsieur aux cheveux gris et aux yeux brillants, qui, sans qu'on y eût pris garde, s'était rapproché. Il se tenait debout, sa main sur le dossier de la banquette, l'air très ému, le visage rouge, tandis que les muscles de l'une de ses joues se contractaient. Mais quel est donc cet amour, amour consacrant le mariage ? Dit-il d'une voix hésitante. S'apercevant de l'émotion de son nouvel interlocuteur, la dame voulut se montrer tolérante et explicite. Mais il s'agit de l'amour vrai. S'il existe entre l'homme et la femme, le mariage est tout naturel, répondit-elle. Oui, mais qu'entendez-vous par amour vrai ? Fit le monsieur aux yeux brillants en souriant timidement. Personne n'ignore ce qu'est l'amour, répliqua la dame, visiblement désireuse de mettre fin à la conversation. Moi, je ne le connais pas, et je serais curieux d'entendre la définition que vous pourriez donner. Elle est bien simple, fit la dame. Elle réfléchit cependant, puis l'amour, c'est la préférence exclusive d'un homme ou d'une femme pour un individu de notre sexe. Oh, une préférence, pour combien de temps? Un mois, deux jours, une demi-heure? Demanda-t-il en riant. Permettez, mais vous parlez évidemment d'autre chose. Du tout, je parle de la même chose. Madame veut dire, intervint l'avocat, que le mariage doit puiser sa force dans l'attachement, dans l'amour, et qu'en ce cas seulement il revêt le caractère d'une chose sacrée, pour ainsi dire. Puis tout mariage qui n'est pas fondé sur une sympathie vraie, sur l'amour, si vous le préférez, n'entraîne aucune obligation morale. Ai-je bien compris votre pensée ? Conclut-il en s'adressant à la dame. D'un signe de tête, elle approuva. Puis l'avocat allait continuer, mais son interlocuteur, qui semblait se contenir avec peine, ne lui laissa pas le temps d'achever. « Pas du tout. Je parle absolument de la même chose, c'est-à-dire de la préférence d'un individu quelconque pour un autre individu de sexe différent, et je demande pour combien de temps cette préférence ?»« Combien de temps? Mais très longtemps, toute la vie souvent, » fit la dame en haussant les épaules. « Oh, dans les romans, oui, mais dans la vie, jamais. Il est bien rare que cette préférence exclusive dure des années. Elle s'en tient le plus souvent à des mois, à des semaines, à des jours, à des heures même, » reprit-il, heureux d'étonner ses auditeurs. « Ah, par exemple, non, mais non, bon, permettez, bon, protestèrent tous à la fois. » Le commis lui-même fit un signe de désapprobation. « Oui, je sais, » cria plus fort que nous le monsieur grisonnant. « Vous parlez de ce que vous croyez voir. Moi, je vous parle de ce qui est. Tout homme éprouve ce que vous appelez de l'amour pour toute jolie femme. » « Mais vous dites là des choses terribles. Le sentiment que l'on appelle amour et qui dure non pas des mois et des années, mais toute la vie, ce sentiment peut bien exister. Non, non, en admettant même qu'un homme puisse préférer telle femme durant sa vie, la femme, elle, en préférera certainement un autre. Cela fut toujours et cela restera toujours ainsi. » Il prit une cigarette dans un étui et l'alluma. « Mais une sympathie réciproque peut bien exister, » fit l'avocat. « Non, c'est impossible, aussi impossible que de voir dans un chargement de poids deux poids marqués à l'avance venir se mettre l'un à côté de l'autre. Ce n'est pas une simple probabilité, c'est une certitude que la lassitude surviendra. Aimer un homme ou une femme toute la vie, C'est vouloir qu'une seule et même bougie brûle éternellement, dit-il en aspirant goulûment la fumée de tabac. Mais c'est de l'amour sensuel que vous parlez. N'admettez-vous pas un amour reposant sur la conformité d'idéal, sur l'union des âmes? Oh, je veux bien, mais alors pourquoi coucher ensemble? Excusez ma façon de parler brutale. Ce n'est pas une raison de coucher ensemble parce qu'on a un seul et même idéal. Et le monsieur grisonnant rit nerveusement. Ah, les faits vous donnent tort, objecta l'avocat. Le mariage existe, nous le constatons. C'est la règle, sinon de toute l'humanité, du moins de la plus grande partie, et beaucoup de ménages vivent longtemps, honnêtement et unis. Le monsieur nerveux ricana de nouveau. Pardon, vous dites que la base du mariage est l'amour. Je mets un doute sur l'existence d'un amour autre que l'amour sensuel. Et comme preuve de l'existence de cet amour, vous me donnez le mariage. Mais aujourd'hui, le mariage n'est fait que de mensonges. Permettez, dit l'avocat, je constate simplement l'existence passée et actuelle du mariage. Mais quelle est la raison de cette existence? C'est qu'on a vu et qu'on voit dans le mariage une chose sacrée, un lien devant Dieu. Pour ceux qui pensent ainsi, certes, il existe. Pour nous, non. Pour nous qui voyons dans le mariage le seul fait de l'accouplement, il n'est qu'hypocrisie ou violence. La tromperie passe encore. L'homme et la femme prétendent en public vivre dans le mariage, tandis qu'en fait, ils sont polyandres ou polygames. C'est mal, on peut néanmoins l'accepter. Mais lorsque l'homme et la femme ont pris l'engagement officiel de passer en commun toute leur vie, que, se haïssant dès le second mois, ils veulent se séparer et continuent quand même à vivre ensemble, les voilà plongés dans cet enfer qui suscite l'ivrognerie, le meurtre, le suicide, fit-il en précipitant de plus en plus son débit, en s'animant à mesure et ne laissant à personne placer un mot. Tous se taisaient comme gênés. « Oui, il est dans le mariage, de mauvaise période, » dit l'avocat, voulant mettre fin à la conversation, qui prenait une allure trop vive et inconvenante. « Vous m'avez sans doute reconnu, » dit soudain le monsieur nerveux d'une voix posée pourtant. « Non, je n'ai pas eu ce plaisir. »« Bon, le plaisir n'est pas bien grand. »« Je suis Poznichev. » Celui qui eut à vivre l'une de ces mauvaises périodes auxquelles vous venez de faire allusion, l'épisode autour duquel j'ai tué ma femme, fit-il en jetant un regard rapide sur chacun de nous. Personne ne sut que dire et nous nous taisions. Oh, peu importe du reste, pardonnez-moi, je ne veux pas vous déranger, ajouta-t-il en faisant entendre son hoquet particulier. « Mais du tout, je vous en prie, » fit l'avocat, sans bien savoir de quoi il le priait. Sans l'écouter, Poznichev tourna le dos et alla reprendre sa place. L'avocat et la dame se mirent à causer à voix basse. J'étais en face de Poznichev et ne savais que dire. Il faisait trop sombre pour pouvoir lire. Je fermai les yeux et fis semblant de sommeiller. Nous arrivâmes ainsi à la station suivante. L'avocat et la dame changèrent de wagon et le commis s'endormit bientôt. Poznichev ne cessait de fumer et de boire le thé qu'il avait fait précédemment infuser. Lorsque j'ouvris les yeux et le regardai, il m'apostropha soudainement d'un ton irrité. « Il vous est désagréable, sans doute, sachant qui je suis, de voyager en ma compagnie, mais je puis charger de place. Mais aucunement. Alors, voulez-vous bien accepter? Il est un peu fort, seulement. » Il me versa de son thé. Et ils prétendent et ne font que mentir, dit-il. De quoi parlez-vous? Mais toujours de la même chose, de leur amour. Vous n'avez pas sommeil? Oh, pas du tout. Voulez-vous alors que je vous conte comment je fus conduit par ce même amour à ce qui m'est arrivé ? Certes, oui, si cela ne vous est pas pénible. Ce qui m'est pénible, c'est de garder le silence. Mais prenez donc le thé. Il n'est pas trop fort ? Le thé était en effet comme de la bière, mais j'en bus quand même un verre. Un contrôleur passa à ce moment. Poznichev l'accompagna d'un regard irrité et commença dès qu'il eut disparu. Je vais vous raconter, mais cela vous intéresse-t-il vraiment? Je lui réitérai mon vif intérêt. Il se tut, passa sa main sur le front et commença. S'il faut raconter, il faut tout dire. Pourquoi et comment je me suis marié, quelle a été ma vie jusqu'à mon mariage. Je suis propriétaire foncier, j'ai terminé mes études à l'université, j'ai été maréchal de la noblesse. J'ai mené jusqu'à cette époque la vie de tous les gens de mon monde, une vie déréglée, et à l'exemple de ceux que je voyais autour de moi, je croyais me conduire en honnête homme, être un brave garçon et mener une vie morale. Je n'étais pas un don Juan. Sans goût contre nature, je ne faisais pas de la débauche le but principal de ma vie, à l'exemple des jeunes gens de mon monde. Je prenais mes plaisirs en temps voulu, décemment pour ma santé. J'évitais ces femmes qui, par la naissance d'un enfant ou par simple affection, pouvaient lier mon avenir. D'ailleurs, y eut-il des enfants ou des attachements, je faisais semblant de ne pas m'en apercevoir. C'est pour cela que je croyais à ma moralité, que j'en tirais même orgueil. Il s'arrêta et fit entendre le hoquet qui lui était particulier et qu'il émettait visiblement quand une idée nouvelle lui venait. « C'est là précisément la vilenie foncière, » s'écria-t-il. « Je ne comprenais pas que la débauche ne consiste pas simplement en des actes physiques, qu'une abjection physique n'est pas forcément la débauche, et qu'à proprement parler, la débauche est cet affranchissement de rapports moraux vis-à-vis de la femme avec laquelle on a des rapports sexuels. Et c'est de cette liberté que j'étais fier. Je me rappelle ce que j'ai souffert un jour de ne pouvoir payer une femme qui s'était donnée à moi par amour, probablement. Je ne fus tranquille que lorsque, par un envoi d'argent, j'eus coupé tout lien moral avec elle. Oh, inutile de m'approuver par des signes de tête, s'écria-t-il subitement. Tous, vous aussi, monsieur, à moins que vous ne soyez un oiseau rare, vous avez les mêmes idées que j'avais. Du reste, qu'importe. Excusez-moi, continua-t-il. Mais croyez-moi, c'est effroyable, effroyable. Qu'est-ce qui est effroyable? Mais cet abîme d'erreur où nous vivons quant à nos relations avec la femme. Je ne puis en parler avec calme, et non pas parce qu'il m'était arrivé cet épisode, comme dit l'autre, mais parce que depuis mes yeux se sont ouverts et j'ai vu tout sous un autre jour, à l'envers, entièrement à l'envers. Je ne distinguais point dans l'obscurité son visage. À travers le bruit du train, me parvenait sa voix seule, au timbre agréable et au ton grave. Il alluma une cigarette et, posant ses coudes sur ses genoux, il reprit. « Oui, ce n'est qu'après mes épreuves et mes souffrances que j'ai compris où était la cause de tout, comment les choses doivent l'être, et j'ai aperçu l'horreur de ce qui est. Voici comment et quand a commencé ce qui m'a conduit à mon épisode. Le début en remonte à mes 16 ans. J'étais au collège, mon frère étudiait à l'université. Je ne connaissais pas encore la femme, mais comme tous mes malheureux camarades, je n'étais plus innocent. Depuis plus d'un an, j'étais perverti par mes camarades. Ce n'était pas la pensée d'une femme qui me poursuivait, c'était la femme en général, les femmes, un être doux. L'idée de la femme nue m'obsédait. Je me mettais au supplice, comme le font les 99 centièmes de nos garçons. Vivant constamment en une sorte d'effroi, je priais, mais je retombais aussitôt. Bien que perverti en imagination et en réalité, je n'avais pas fait le dernier pas. J'allais seul à ma ruine, sans avoir jusque-là touché un autre être humain. Mais arriva un ami de mon frère, un étudiant joyeux, un bon garçon, comme on dit, le pire des vauriens, par conséquent. Il nous apprit à boire et à jouer aux cartes. Puis il profita de ce que nous avions bu pour nous entraîner dans une maison publique. Nous partîmes. Mon frère, innocent comme moi, tomba dans cette même nuit, et moi, enfant de 16 ans, je me souillant en même temps l'objet de mes rêves, la femme, sans comprendre la portée de mon action, personne parmi les aînés ne m'ayant dit que cela était mal. Certes, j'aurais pu l'apprendre par les commandements, mais on ne nous les enseignait que pour que nous puissions répondre aux prêtres, aux examens, et ils tenaient une place bien moindre dans nos études que la règle de l'emploi de hutte dans les propositions conditionnelles. Jamais aucun de mes aînés, aucun de ceux dont je respectais l'opinion, ne m'avait dit que ce fut mal. Au contraire, des personnes que j'estimais disaient que c'était bien. On m'avait présenté cet acte comme devant mettre un terme à mes tourments. Cette opinion, je l'avais entendue et lue. J'avais même ouï dire de mes aînés que c'était bon pour la santé. Mes camarades y voyaient comme un mérite, une preuve de virilité et non quelque chose de répréhensible. Quant au risque d'une maladie, c'est prévu, le gouvernement en prend soin. Il veille au fonctionnement régulier des maisons closes et assure les risques de la débauche pour les collégiens. Des médecins sont rétribués à cette fin. C'est tout naturel puisqu'ils attestent que la débauche est utile à la santé. Je connais des mères qui prennent soin à ce point de vue de la santé de leurs fils et la science leur montre le chemin des maisons de tolérance. La science, comment cela? Ben, les médecins ne sont-ils pas les pontifs de la science? Ils pervertissent les jeunes gens en leur donnant de semblables règles d'hygiène. Puis, avec une gravité impressionnante, soigne la syphilis. Et pourquoi ne pas la soigner? Si l'on avait apporté à la guérison de la débauche la 100e partie des efforts employés pour guérir la syphilis, ce mal aurait depuis longtemps disparu. Or, tous ces efforts concourent au contraire à l'extension de la débauche et uniquement à en rendre les conséquences inoffensives. Mais c'est d'autre chose que je voulais parler. Je suis tombé. Ce malheur m'est arrivé comme il arrive aux 9/10 des hommes, non seulement dans notre société, mais même chez les paysans. Je suis tombé, non séduit par les charmes d'une femme, mais parce qu'on se plaît à voir dans cette chose, qui pour moi n'avait été qu'un hasard, les uns un soulagement légitime et utile pour la santé, les autres un passe-temps naturel, excusable, innocent, même pour un jeune homme. Qu'on pût appeler chute, cette action faite de besoin, de plaisir, je ne le comprenais pas. Ma jeunesse s'y laissa aller comme elle s'était laissée aller à boire et à fumer. Et cependant, il y avait dans cette première chute quelque chose de particulièrement touchant. Je me rappelle que, dans la chambre même, tout de suite après, une tristesse profonde m'envahit et que les larmes vinrent presque à mes yeux en songeant à la perte de mon innocence, à la perte éternelle de mes relations normales avec la femme. Oui, mes relations avec la femme étaient à jamais perdues. Impossible dès ce moment d'avoir des rapports purs avec une femme. J'étais devenu ce qu'on appelle un sensuel. Or, être un sensuel, c'est être tombé dans un état physique semblable à celui d'un fumeur d'opium ou d'un ivrogne. De même qu'un fumeur d'opium ou un ivrogne ne vive plus de la vie normale, un homme qui a goûté le plaisir avec plusieurs femmes n'est plus un être normal, il est perverti. Comme on reconnaît à leur manière d'être le fumeur d'opium et l'ivrogne, on reconnaît à la sienne un sensuel. Cet homme peut se contraindre, lutter contre ses passions. Les rapports simples, purs et fraternels avec une femme lui sont à tout jamais interdits. Dès qu'il jette son regard sur une jeune fille, on le reconnaît. J'étais devenu insensuel et je le suis resté. C'est ce qui m'a perdu. Oui, c'est ainsi. Puis cela alla de plus en plus loin. Dieu, quand le souvenir de toutes mes vilainies de cette sorte me revient, je frissonne d'épouvante en songeant surtout aux railleries que mon innocence m'a tirées de la part de mes camarades. Et quand je pense à ce qu'on raconte de la jeunesse dorée, des officiers, des Parisiens, quand je pense à l'air d'innocence que nous avons tous, viveurs de 30 ans, la conscience pleine de 1000 crimes envers la femme, lorsque nous pénétrons dans une salle de bal, dans un salon rasé de frais, dans la blancheur éclatante de notre linge en habit ou en uniforme, quel emblème de pureté, quel rêve! Réfléchissons un instant sur ce qui est et sur ce qui devrait être. Lorsqu'un de ces débauchés s'approche de ma sœur ou de ma fille, moi, qui connais son genre de vie, je devrais le tirer à l'écart et lui dire: ami, je connais ta vie de débauche, je sais dans quelle compagnie tu passes tes nuits. Ta place n'est donc pas ici, ce sont d'innocentes jeunes filles qui se trouvent ici. Voilà ce qu'on devrait dire. Et qu'arrive-t-il au contraire? Lorsqu'un de ces messieurs se présente et danse avec ma sœur ou ma fille, en enlaçant sa taille de ses bras, nous sourions de plaisir, si le jeune homme est riche et bien apparenté. Peut-être daignera-t-il honorer, après rigole-moche, ma fille aussi. Même s'il garde quelques traces du mauvais mal, ce n'est rien, on peut aujourd'hui en guérir. J'en connais plusieurs exemples de ces mariages entre avariés et des jeunes filles du grand monde. Oh, quel dégoût! Mais le jour viendra bien où toutes ces lâchetés, tous ces mensonges seront enfin démasqués. De nouveau et à plusieurs reprises, il fit entendre son bruit étrange, puis reprit de son thé, horriblement fort, l'eau bouillante lui manquant pour l'affaiblir. Agité moi-même par les deux verres que j'en avais bu, je me rendais compte combien le thé devait agir sur Poznichev, car il paraissait de plus en plus excité. Sa voix s'accentuait et prenait un singulier relief. Il changeait de position à tout instant, ôtait et remettait son bonnet, et dans la demi-obscurité qui nous entourait, son visage changeait étrangement d'expression. Il reprit. « Je vécus de la sorte jusqu'à 30 ans, poursuivi sans cesse par l'idée du mariage et de la famille. J'observais alors les jeunes filles qui auraient pu me convenir. Vicieux et débauché, j'osais chercher celle dont la pureté serait à la hauteur de la mienne. J'en ai rejeté plusieurs, précisément parce que je ne les ai pas trouvées assez pures pour moi. Je jetai enfin mon dévolu sur une des deux filles d'un propriétaire terrien de Pensa, riche autrefois mais ruiné par la suite. Une nuit, au retour d'une promenade en bateau, par un beau clair de lune, comme nous étions près d'arriver, j'étais assis près d'elle et je ne pouvais distraire mon regard de sa taille svelte, de ses formes moulées par un jersey collant, des boucles blondes de ses cheveux. Je le compris subitement, c'était elle. Il me semblait que mes pensées et mes sentiments élevés trouvaient en elle un écho. En réalité, j'étais séduit par sa taille et par ses cheveux, et l'intimité de toute la journée avait fait germer en moi le désir d'une intimité plus grande encore. Fait étrange, on s'imagine souvent que la beauté est synonyme de bien. Une jolie femme dit des bêtises et on croit entendre des choses intelligentes. Elle se conduit mal et l'on aperçoit que son aspect charmant. Et lorsqu'elle ne dit point de bêtises ni ne se conduit mal, Elle apparaît comme une merveille de moralité et d'intelligence. Je rentrais chez moi, l'âme débordant d'exquises impressions, et, convaincu qu'elle était la perfection même, je la jugeais immédiatement digne d'être ma femme. Je fis ma demande le lendemain. Comme les choses sont embrouillées. Sur 1 000 fiancés, dans le peuple comme chez nous, on aurait peine à en trouver un seul qui n'ait été marié 10aine, 100aine, voire 1 millier de fois avant son mariage officiel. Il existe, paraît-il, aujourd'hui, des jeunes gens chastes qui comprennent et savent que ce n'est pas là une plaisanterie, mais une chose éminemment sérieuse. Que Dieu les protège. À mon époque, il n'y en avait pas 1 sur 10 000. Tous le savent, et ils agissent comme s'ils l'ignoraient. Dans les romans, on dépeint jusqu'au plus léger détail des sentiments des héros, les ruisseaux, les buissons, les fleurs qui leur servent de cadre. Lorsqu'on décrit leur grand amour pour une jeune fille, pas un mot n'est dit sur leur vie antérieure, rien sur leurs visites dans les maisons publiques, sur les soubrettes, les cuisinières, les femmes des autres. S'il en est de ces romans inconvenants, on ne les laisse pas entre les mains de celles qui auraient le plus de profit à les lire, les jeunes filles. Tous les hommes cachent leurs pensées à eux-mêmes comme aux jeunes filles. On croirait, à les entendre, à la non-existence de cette vie corrompue des grandes villes et des villages mêmes, de cette débauche dans laquelle tout se roule avec volupté. Ils le disent avec une apparence de conviction telle qu'ils finissent par s'en persuader eux-mêmes. Et les pauvres jeunes filles, elles, y croient sérieusement. C'était le cas de ma malheureuse femme. Je me souviens que, étant fiancé, je lui montrais un jour mon journal intime. La mettant ainsi au courant de mon passé, particulièrement de la dernière liaison que j'avais eue et que je croyais de mon devoir de lui faire savoir. Elle aurait pu en effet la prendre par d'autres. Quand elle eut compris ma révélation, sa frayeur et son désespoir furent si grands que je vis le moment où elle renonçait à moi. Quel bonheur c'eût été pour tous deux! Poznichev se tut et avala une gorgée de thé.